EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est créatrice de toutes choses, de l'univers. C'est elle qui travaille en nous pour perfectionner l'œuvre de Christ qui a commencé et qui nous rend capable d'influencer notre milieu. Cette émission a été créée pour vous rendre capable de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne des disciples de Jésus-Christ. Nous avons commencé, depuis le début de cette semaine, à toucher à un sujet important de la vie d'un disciple de Christ, qui est le sujet de sa famille. On a appris bien de choses. Et depuis hier, on était en train de parler de comment développer des liens de famille, des relations de contact, de l'entente familiale. On a parlé de 3 points et on voudrait parler de 3 autres aujourd'hui pour finir et conclure et finir cette semaine. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Donc, on a déjà appris le premier point, le second et le troisième point, des choses qui peuvent nous apprendre à bâtir des liens de famille en tant qu'une famille chrétienne. Quelle est la quatrième chose? La quatrième, c'est célébrer les différences. Vous voulez une famille chrétienne solide? Apprenez à célébrer les différences. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 14 à 27. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 14 à 27. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Paul est en train d'expliquer ici l'importance de chaque membre du corps du Christ, de la famille chrétienne. Et il utilise une métaphore, il explique comment fonctionne un corps humain. Et il dit comment dans une famille, comment dans une église, comment dans un corps, chaque membre a un rôle. Et si tout le monde était pareil à l'autre, il n'y aurait donc pas de corps. Le sens même du mot corps, c'est la diversité des membres. Si on n'a que oreille, oreille, oreille partout, ça ne s'appelle pas corps. Et ça, ça n'est que corps parce qu'il y a cette différence, cette singularité que chaque membre détient. J'aimerais lire avec vous Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens, prenons chapitre 3, verset 13. Colossiens 3, 13 dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mes frères et sœurs, regardez très bien. Célébrer la différence, c'est un des moyens efficaces pour bâtir les liens de famille. Dans une famille, on est différent. En commençant par le couple, si on ne sait pas se réjouir du fait qu'on est différent, on ne pourrait pas vivre ensemble. Imaginez-vous, la force d'un couple, mes amis, c'est le fait que nous sommes différents. On aime l'autre parce qu'il n'est pas nous. Il a du nous, il ne l'est pas en même temps. C'est en même temps attrayant, c'est en même temps... C'est parce qu'il est à la fois comme nous et un peu différent de nous. La différence est la raison qui nous maintient ensemble. Lorsqu'on découvre combien on est différent, on ne devrait pas se diviser. C'est parce qu'on se rend compte combien on est différent qu'on devrait se compléter et maintenir notre jeu d'équipe. Et une famille, pour qu'elle se bâtisse et des liens solides, on doit avoir un système intérieur qui permet de célébrer la différence, de faire en sorte qu'on sente dans la famille que le fait que toi, tu sois différent de tout le monde, on aime ça. Le fait que toi, tu sois aussi comme ça, on aime ça. Le fait que toi aussi tu sois comme ça, on aime ça. La famille, ce n'est pas conformer tout le monde à un individu, c'est conformer tout le monde à Christ en gardant la particularité de chacun d'entre nous. Célébrer les différences voudrait dire quoi de façon pratique? Ok. Hein? Donner à chacun son tour. Ça signifie que dans la famille, si vous voulez bâtir des liens, la vie de famille doit donner à chacun son tour. On peut avoir un footballeur à la maison, celui qui détient l'attention de toute la famille, match samedi, match dimanche, ah là-bas, c'est lui qui passe à la télé. Et puis après, il y a une passionnée de la littérature. Dans la vie à la maison du matin en soir, ce n'est pas que football. À un moment donné, on a besoin de compétences de l'autre. Il est important que dans le fonctionnement de la famille, on donne à chacun son tour de s'exprimer. Quelquefois, ne donnez pas parole à celui qui parle facilement. Laissez l'autre qui ne parle presque jamais parler. Moi, je vous ai déjà dit, et peut-être je vous casse déjà les oreilles avec ça, j'ai une famille de 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Ma femme et moi, des fois, nous, quand on roule en voiture, on pousse nos enfants à chanter ou à faire quoi pour voir leurs compétences et tout. On a été choqués une fois où on connaît celle qui chante déjà, très bien. Moi, on a été très choqués d'entendre la voix de celle qui chantait jamais, qui n'aimait presque jamais chanter. Quand elle a chanté, on a fait un grand silence, ma femme et moi, on s'est regardés. On dit, waouh, elle a une si belle voix. Pourquoi elle chante jamais? Si vous ne donnez pas dans la maison, dans le système familial, de temps en temps le tour aux autres de faire aussi, vous ne célébrerez jamais la différence et vous risquerez de croire que chacun doit ressembler absolument à l'autre. J'ai plusieurs fois commis cette erreur dans ma vie, pas seulement dans ma famille, mais aussi dans la gestion de l'église ou la façon de conduire les frères et sœurs. À un moment dans mon ministère, j'étais focalisé sur ceux qui le font bien. Restons avec ceux qui savent le faire déjà, comme ça on avance avec le travail. J'ai dû comprendre avec les temps et avec le bon coaching, le mentorat des hommes de Dieu avec qui j'ai servi et près de qui j'ai servi le Seigneur. J'ai pu comprendre finalement que vous ne pouvez pas avancer dans l'œuvre de Dieu seulement avec ceux qui sont capables d'exécuter ce qu'ils font. Les bons prédicateurs, les bons modérateurs, non. L'Église est un système de discipulats. C'est un cadre où les autres doivent faire pour la première fois commettre leurs erreurs. Si vous ne voulez jamais le faire avec ceux qui commencent la première fois, où vont-ils commencer pour la première fois? Parce qu'au fond, il faut une première fois. Dans la famille, on doit donner à tout le monde sa première fois. Ne vous dites pas, ah lui, je ne l'ai jamais vu faire ça. Il va le faire aujourd'hui. Donner à chacun son tour permet de célébrer la différence. Deuxièmement, quand on parle de célébrer les différences, c'est aussi éviter des comparaisons. La famille, c'est un endroit où on est différent. Paul le dit très bien. Pourquoi voulez-vous comparer la main avec le pied? Ils sont différents, chacun a une utilité différente. Si vous voulez qu'une famille soit stable et bâtisse des liens forts, célébrez la différence en évitant des comparaisons. On aime dire ceci. Vous ne pouvez pas comparer la tortue à l'antilope. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas comparer vous pouvez pas faire une comparaison de vitesse. Vous voulez faire une compétition, vous mettez l'antilope et la tortue. Vous allez vous dire, bien sûr, le plus rapide, c'est qui? Le plus rapide, c'est l'antilope. Non. Voici la réflexion. L'antilope n'est rapide que dans son corps d'antilope, dans ses attributs d'antilope, dans sa taille d'antilope. L'antilope n'est pas rapide en tortue. Pour comparer la vitesse de la tortue, compare-la d'abord avec les autres tortues. Parce que l'antilope a tout en lui pour être antilope, et le fait d'être antilope le rend déjà rapide. Et aujourd'hui, si on mettait à l'antilope la masse égale à celle que la tortue a, la peau que la tortue porte, la carcasse que la tortue porte, les capacités, les nerfs, le fonctionnement que la tortue porte, si vous aviez fait d'une antilope tortue, eh bien je vous assure que cet animal ne serait pas aussi rapide. Il en est de même. L'antilope, la tortue ne langue que dans sa nature d'antilope. Si la tortue avait la même structure osseuse que l'antilope, la même taille, n'avait pas besoin d'avoir toute cette peau, eh bien, la tortue aussi serait rapide. Donc, ça ne sert à rien de comparer les deux parce que chacun dans sa nature est fait, conçu, préparé et détient en lui les choses qui les qualifient tant que telles. La tortue n'est pas plus lente. Elle fonctionne comme une tortue. L'antilope n'est pas plus rapide. Elle fonctionne comme l'antilope. Donc, il est important dans une famille de comprendre que tout le monde n'est pas tortue, tout le monde n'est pas antilope, la tortue n'est pas lente, l'antilope n'est pas rapide. Il ne faut pas comparer les deux. Lui, il fait les choses vite, fantastique. Lui, il fait les choses à sa vitesse, fantastique. Mais il n'est pas lent par rapport aux autres. Beaucoup de compétences, beaucoup d'habiletés ont été détruites. Beaucoup de gens sont détruits dans la famille parce qu'on les a souvent comparés. Ah, mais lui, il est derrière ton petit frère, mais regarde là ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Le fait de naître après ou de naître avant ne vous qualifie pas d'emblée dans la vie. Il est important de célébrer la différence et pour célébrer la différence, il faut éviter des comparaisons. Frères et sœurs, nous sommes venus à l'église, nous sommes venus plutôt dans la famille, femme, enfant, votre femme n'est pas vous. Vous ne pouvez pas la comparer. Regarde chérie, moi d'ailleurs j'ai fait ça, mais comment toi tu n'arrives pas à le faire? Elle n'est pas toi. Ah mais quand même, il faut de leur trouver de l'émulation. L'émulation est très différente de la comparaison. L'émulation, c'est donner à quelqu'un un repère dans sa catégorie qui lui montre comment il serait meilleur, le meilleur de lui-même. C'est lui donner un benchmark, on lui donnait une image de référence. Lui dire, voilà le meilleur de toi, à quoi ça peut ressembler. Ce n'est pas le comparer, mais ça lui permet d'idéaliser sa finalité en se disant, je vais un jour devenir comme ça. Une famille chrétienne, c'est une famille où on respecte la singularité de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités et on devrait célébrer la particularité des autres, de chaque membre de la famille, en évitant des comparaisons. Troisièmement, célébrer les différences signifie juger chacun selon ses capacités. Jésus-Christ donne un très bel exemple. Il parle la parabole du royaume, il donne des talents à chacun. Jésus donne des talents. En fait, dans la parabole, le maître donne les talents, mais il ne donne pas la même chose à tout le monde. Cela ne vous a-t-il pas choqué? C'est un maître équitable, juge, c'est censé être l'image de Dieu. Mais même quand Dieu montre son image dans cette parabole, il montre qu'il est un Dieu d'équité. Et l'équité de Dieu, ce n'est pas l'égalité humaine. Ce n'est pas donner à tout le monde la même mesure, mais c'est donner à chacun d'après ses capacités. Et c'est ce que cette parabole dit. Il a donné à chacun d'après ses capacités. Dieu nous a créés tous en nous donnant tous, chacun d'après ses capacités. C'est pour cette raison, celui qui avait eu deux talents, les a multipliés, n'a pas été considéré infidèle. Ce n'est pas celui qui en avait cinq, les a multipliés, qui était considéré le plus fidèle. Il y a eu l'infidèle que celui qui en a eu un, qui a refusé de le multiplier. C'est ça, en fait, la notion ici. Juger chacun selon ses capacités. Ne le jugez pas par rapport aux autres. Jugez chacun selon ses capacités. Dans ma vie, j'ai fait de l'humanité pédagogique, j'ai fait la formation pour enseignement d'adultes. Dans ce domaine-là, on donne beaucoup de bons conseils dans la manière de juger les étudiants. Au début, quand je faisais pédagogie, notre professeur me disait toujours, quand les élèves entrent dans la salle, ils ont tous 100%. Ils ont tous 100%. Ne réfléchis jamais comme si les élèves entrent à la salle, ils avaient zéro. Et c'est au bout de l'examen qu'ils auront 10%, 20%. Ils auront des notes comme ça, 10%, 20%. Réfléchis plutôt en te disant, en entrant à la salle, tous les élèves ont 100% de possibilité de m'écouter. Et lorsque je ferai une évaluation, ça démontrera combien chacun m'a écouté à 20%, comment l'autre s'est préparé que pour 10%, comment l'autre ne m'avait suivi qu'à 50%, comment l'autre n'a capacité de rétention que de 30%. En réalité, chaque enfant, lorsqu'il naît, il vient sur la terre. Chaque être humain, parent, enfant, chacun quand il vient sur la terre, le Seigneur nous donne même souffle de vie, les mêmes choses sur la terre. Nous avons tous le droit de réussite. Tous, on est pareil, Dieu nous a donné cela. Quelle que soit l'immobilité qu'on a dans notre corps, dans un domaine ou un autre, il nous donne le souffle de vie. Il nous donne la même matière première avec laquelle fonctionner. Alors, jugez chacun d'après ses capacités. Ce qu'il peut produire sur la terre est basé sur ce que Dieu a mis en lui maintenant comme compétence pour exploiter ses richesses naturelles. Jugez chacun d'après ses capacités. Ne demandez pas à quelqu'un, c'est une autre formation encore, dans un système familial ou dans tout être humain, il existe plus ce qu'on appelle des formes d'intelligence. Il existe jusqu'à 9 formes d'intelligence qu'on peut développer. Et souvent, les parents commettent l'erreur de vouloir faire en sorte que tous leurs enfants soient logico-mathématiques, qu'ils réfléchissent selon certaines logiques et qu'ils manipulent les chiffres. Et ils appellent ça être intelligent. Or, il y a des gens, des enfants qui ont ce qu'on appelle de l'intelligence musicale rythmique. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à travers le mouvement du corps et l'élément musical. Vous verrez un enfant qui, même quand il fait son devoir, même quand il n'y a aucune musique qui joue, le fait qu'il fasse participer son corps et fasse fredonner, ça fait bouger ses neurones. C'est comme ça qu'il est plus intelligent. Il a plus d'intelligence dans ce domaine-là que dans d'autres. Mais si tu veux juger tout le monde d'après le fait qu'on doit être fort en mathématiques, tu es en train de détruire la famille. Parce que Dieu, en te regardant, il dit, je ne demanderai pas à l'oreille les choses que j'ai données à l'œil. Je ne demanderai pas à l'œil les choses que j'ai données à la jambe. Je les ai créés tous différents et Jésus nous montre cet enseignement-là. Créer les liens de famille? Oui, absolument. Comment? On a déjà appris 5. On a déjà appris 4 façons de le faire. Cinquièmement, dire les vérités dures à entendre. Oh! Vous ne pouvez pas bâtir une famille si vous ne savez pas vous dire la vérité. Et il y a dans la catégorie des vérités celles qui sont dures à entendre. 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 8. 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 8. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Et il la grandissait comme sa fille. Et la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais roi pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, je t'aurais encore ajouté. Ici, une vérité dure à entendre. Nathan se prépare à aller dire au roi, je sais ce que tu as fait. Tu as tué le mari d'autrui pour sa femme. Mais regardez comment il va lui présenter cette vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Proverbe 12, 17 dit, celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. La vérité doit être dite. La famille bâtit les liens parce qu'on se connaît sincèrement dans le cœur ce que l'on pense. Si on est dans une famille où chacun parle derrière le dos de l'autre, on s'envoie des messages inbox. Quand on est dans le groupe, on dit autre chose. On n'arrive jamais à se dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne s'appelle pas une famille, ça. Même un parti politique pour les intérêts humains, Les gens se disent deux fois des vérités en face. Mais si vous appelez ça famille et vous appelez ça chrétienne, vous devez avoir le courage de vous dire la vérité et de vous lire la vérité et même des vérités qui sont dures à entendre. Mais le problème, c'est comment? Souvent, c'est on veut se dire la vérité, des vérités dures à entendre, ça signifie quoi? Ça signifie premièrement, la vérité établit le respect. Quand il y a une vérité, lorsque la vérité se dit, cela établit le respect. Dire la vérité dure à entendre signifie, un, que la vérité établit le respect. Quand vous dites la vérité, le respect est établi. Quand vous dites la vérité, ça équilibre les relations. La vérité ne chamboule pas le fonctionnement de la famille. Quand un enfant dit la vérité, même dure à entendre à son père, ça ne chamboule pas la relation ou le sens de respect. Un enfant peut dire la vérité à son père. L'homme peut dire la vérité à sa femme. La femme peut dire la vérité à l'homme. Les frères et sœurs peuvent se dire des vérités, même des vérités dures à entendre. Cela ne vient pas détruire, mais plutôt établir le respect. Je te respecte mieux parce que tu m'as dit la vérité. Regardez dans la vie, même la personne la plus dure au monde respectera toujours celui qui dit la vérité et lui dit la vérité en face. Il aura toujours un respect différent de celui qui dit la vérité en face. Dire les vérités dures à entendre veut dire deux. Vérité ne rime pas avec impolitesse. Alors, quand on dit vérité dure à entendre ici, mes amis, on ne dit pas impolitesse. Dire la vérité qui est dure à entendre ne demande pas de se mettre dans des états. Voilà un principe que j'aimerais vous dire, qui est devenu pour moi un principe de vie. Le temps qui passe rend la vérité dure à avaler. Quand on a passé trop de temps à ne pas dire ce qu'on devrait dire, le moment où on le dit, ça devient dur à entendre. Et du reste, on dit, les hommes se fâchent souvent parce qu'ils ont manqué le temps de dire ce qu'ils devaient dire. Souvent, les gens deviennent colériques, ils parlent sous la colère parce que le moment où ils auraient dû le parler, ils avaient raté ce moment-là. Ils n'ont pas dit, ils ont attendu. Frère, dire la vérité, même si vous allez y mettre autant d'émotions, ça ne doit pas diminuer le respect que vous avez de la personne. J'ai vu des gens dire, je vais lui parler, c'est mon grand frère, c'est mon père, mais je vais lui parler, je veux remettre la pendule à l'heure. Dire la vérité ne demande pas de manquer de respect à quelqu'un. Ça peut se faire avec douceur. D'ailleurs, c'est ce que la Bible recommande. Avec douceur. Dites-vous la vérité avec douceur. Vérité ne signifie pas impolitesse. Tu peux dire la vérité à tes parents. Tu peux dire la vérité à tes enfants. Dire la vérité à ton mari et à ta femme. Avec douceur. Troisièmement, ça signifie dire les vérités dur entendre sous-entend ici que tout est question de comment, quand et où. On va dire la vérité. Je vous encourage à ça. Mais sachez-le que il y a trois paramètres à prendre en compte quand vous voulez dire la vérité. Une vérité surtout dure à entendre. Comment vous la dites? Quand vous dites cette vérité? Et où vous dites cette vérité? Une vérité très difficile à entendre de la part qui devait être dite à David. Mais Nathan arrive. Au lieu d'entrer en disant « je vais voir le roi. » Ah, donne-moi de voir le roi. Il est là en train de parler en langue. Dit, le Seigneur m'envoie, je vais voir le roi. Ça va chauffer. Je veux voir le roi maintenant. Le roi apparaît, il dit, roi. David, toi. Toi qui étais là derrière le troupeau que le Seigneur a rendu roi. Toi, David. C'est ça les bêtises que tu fais. Il se souvient que David est roi. Il a l'onction de Dieu, c'est un choisi du Seigneur. Avec tout le respect, il prend une façon de le lui dire. La manière dont tu dis la vérité, deux fois, compte plus que la vérité elle-même. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire, ce que tu m'as dit, je ne refuse pas, mais la façon dont tu me l'as dit, tu te dis, moi j'étais inquiet de ce que j'étais en train de lui dire, maintenant finalement lui s'inquiète sur la manière dont je l'ai dite. En matière de présenter une vérité dure à entendre, deux fois, la manière elle-même est plus importante que le contenu. Vous voulez dire la vérité en famille, prenez-y une bonne méthode. N'humiliez pas quelqu'un parce que c'est la vérité. Ne cherchez pas à démontrer que la personne est basse, elle est rien et que vous avez raison. Ne tentez pas de jubiler derrière son tort. c'est comment, mais c'est aussi quand. Allez, il y a des choses que les gens ne sont pas prêts à entendre à un certain moment. Il faut les dire à un autre moment de la journée. Il faut choisir le moment où il faut les dire, mais aussi choisir l'endroit où il faut les dire. Ce n'est pas devant tout le monde. Non, mais finalement, toi, tu es une jeune fille qui ne s'est pas préparée, tu ne sais pas ranger ta chambre. Je voulais te le dire devant tes amis, finalement, il fallait que tu l'entendes. Parce que moi, c'est une vérité, je dois te le dire, tu es très sale. C'est vrai qu'elle n'arrive pas à préparer sa chambre, mais tu viens lui dire devant ses amis, est-ce que c'est le bon endroit? J'aimerais partager avec vous la dernière des choses que je pense peut aider les familles à bâtir des liens familiaux. Pour avoir les meilleurs liens de famille, je vous suggère une dernière chose. Bâtir la mémoire collective. Ce qu'on appelle la mémoire collective, c'est le fait de partager socialement les mêmes faits et les événements. Je l'ai dit sous une autre forme. Mais une famille, si vous voulez bâtir réellement des liens de famille, vous devez avoir la même mémoire. C'est-à-dire que tout le monde peut penser à la même chose, se souvenir de la même chose. J'ai presque parlé. J'ai presque parlé de ça les émissions passées. On doit vivre des faits qui nous sont partagés ensemble. Nous tous, on connaît ça, on a vécu ça ensemble. Voilà, vous devez avoir du vécu d'ensemble. C'est ce qu'on appelle bâtir la mémoire collective. Comment on fait ça? Pour avoir un vécu communautaire, un vécu collectif, c'est ce vécu collectif qui bâtit et qui améliore les liens de famille, qui améliore toute relation. Toute relation, pas seulement les liens de famille, toute relation qui va être solide a besoin d'avoir un vécu collectif. On doit avoir partagé quelque chose en commun. Comment on fait ça dans une famille? Moi, je vous conseille simplement, les vacances. Prenez un temps où personne ne travaille, personne ne fait quoi que ce soit, vous concentrez seulement à jouir de votre relation. Les vacances. Les vacances. Les vacances, ça ne demande pas de l'argent, ça demande juste un programme, ça demande juste d'y penser. Ayez des temps où vous vous consacrez à la famille. Deuxièmement, des célébrations. Célébrez des choses. Quelqu'un a réussi à l'école, célébrez cela. C'est la collation de grade, célébrez cela. Faites une petite fête, même si ce n'est pas, même si vous n'avez pas acheté une nouvelle nourriture, mais ce jour-là, que la journée soit différente à la maison. Célébrez. Célébrez les fiançailles. Célébrez chaque petit effort qui a été bien réussi. Quelqu'un avait du mal à réussir dans un cours, il se battait finalement, il a réussi. Célébrez ça. Troisièmement, les deuils. Le moment où on est là en train de se dire, quelqu'un est parti. C'est un moment important de réflexion. Au temps de deuil, on réfléchit. Et quand on va à un deuil, qu'il soit dans notre famille ou que la famille ait un deuil d'ailleurs, c'est un moment important, une mémoire utile pour toute la famille. C'est une base de données qui pousse tout le monde à réfléchir pareil. Ou alors, les défis. Partager les défis. Ça, c'est l'une des façons de faire pour bâtir la mémoire collective. Ayez un défi collectif. Il faut que le défi soit connu dans la famille. Quel est notre défi? Nous voulons quitter cette maison. On prie pour ça. Il faut que nous quittions cette maison, nous allons ailleurs. Ça ne doit pas juste être la responsabilité des parents. Partagez. Quand vous avez un défi de la famille, il faut que tout le monde soit conscient qu'on a telle chose à réaliser. De sorte que quand c'est réalisé, alors on pourrait célébrer. Et enfin, les voyages et le temps en tant que famille de vous déplacer de votre milieu. Voyager ne signifie pas nécessairement quitter un pays ou un autre. Juste vivre cette même famille, même pour une nuit, même pour quelques heures, mais en dehors de vos contextes habituels. Ça vous permet de voir autre chose que vous n'avez jamais vu dans les uns les autres. Ma femme et moi, quand nous arrive de voyager avec les enfants, on les découvre, on les redécouvre. On est très étonnés. Quand on débriefe en fin de journée, on dit « Ah, Roland, il a fait quelque chose, je ne savais pas que Roland était comme ça. » Une famille chrétienne doit savoir que les liens de famille, les relations de la famille, ça s'est bâti. Et je partageais ça avec vous. Puisque nous finissons aujourd'hui cette série, puis-je prier avec vous? Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui m'ont entendu écouter durant toute cette semaine au sujet de leur famille. Bien des choses ont interpellé chacun d'entre nous en tant que disciples de Jésus au sein de sa propre famille. N'est-ce pas les Écritures qui disent que si on ne prend pas soin des nôtres, on est pire que des infidèles? Ça sert à quoi de promener une grosse Bible et de prier à haute voix dans sa chambre si dans sa famille, on n'est pas une lumière, on n'est pas le sel, on n'y apporte pas Christ? Ma prière au Dieu, c'est qu'après avoir appris toutes ces choses, qu'il y ait des restaurations de famille, des réconciliations, qu'il y ait des réparations, que des gens prennent des décisions fortes qui vont transformer la famille. Des décisions de père, des décisions de mère et d'enfant, des décisions de grand-mère, de grand-père, des décisions de fils et de petits-fils, mais des décisions qui changent toute la famille. Au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas de partager avec nous votre témoignage de disciples dans la famille. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous êtes décidé d'appliquer désormais? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.